stratégie. Daesh s'en prend à ceux qui s'en prennent à elle. Nous lançons des bombes de 250 kilos sur la tête de gens à un bout de la planète. Je trouve étonnant que nous soyons surpris aujourd'hui du fait que ces gens ont pu avoir l'idée de nous faire goûter à cette violence que nous avons initiée. Car Daesh ne nous a jamais déclaré la guerre. Daesh était l'un des acteurs du conflit, l'une des expressions de l'échec absolu de toute solution politique. Et nous nous sommes engagés, pas seuls bien sûr, hein, avec les États-Unis. Alors que, rappelons-le, nous avons failli, et ça il faut le porter au crédit de la France, nous avons failli, si les Britanniques et les Américains ne nous avaient pas lâchés, essayer d'affecter le rapport de force militaire sur le terrain au bénéfice de l'opposition, mais nous n'avons rien fait de cela. Donc nous avons eu des bonnes paroles à l'égard de l'opposition, et tout d'un coup, nous entrons en guerre contre un segment de cette opposition, si détestable soit-il, il n'est qu'un segment de cette opposition à Bachar al-Assad, et nous laissons Bachar al-Assad complètement libre de ses mouvements. Donc effectivement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas besoin de chercher des arguments idéologiques, on n'a pas besoin de parler d'islam radical, on doit simplement constater que nous recevons. Ça n'est pas une surprise. Nous le savions. Nous en avons rajouté une couche il y a quelques jours en envoyant le Charles de Gaulle. Nous sommes en guerre à un bout de la planète. Un écho de cette guerre nous a frappé hier à Paris.
Voilà, François Burga, chercheur à l'IRMAN, au micro d'Alexandra Cagnard. David Thompson, finalement, ce qui s'est passé hier soir, ce qu'a commis l'organisation de l'État islamique, est-ce que ça ne fait pas les affaires, paradoxalement, de Bachar al-Assad?
Mais c'est ce que dit l'opposition syrienne en exil, et pas seulement, depuis quasiment 2011. C'est que l'apparition de l'État islamique est une bénédiction pour le régime de Bachar al-Assad, qui doit sa survie politique, aujourd'hui, à l'échelle internationale, à l'apparition de l'État islamique, en fait, a donné corps à sa propagande depuis 2011, qui était de dire que les rebelles, la révolution syrienne n'était le fait que de terroristes sanguinaires. Et l'opposition, les rebelles, une partie des rebelles syriens vont même plus loin. Ils vont jusqu'à dire que il y a eu une politique volontariste de djihadisation par le régime de la rébellion syrienne. Et c'est vrai que beaucoup de cadres djihadistes ont été libérés des prisons de Bachar el-Assad au tout début de la révolution, et aujourd'hui si on regarde où sont partis ces cadres djihadistes qui ont été libérés, ben certains sont à des postes assez importants au sein de l'État islamique. C'est le cas par exemple du Wali, le préfet de Raqqa, Abou Lokman al-Souri. Il était dans les prisons de Bachar el-Assad, il a été libéré au tout début de la révolution, et aujourd'hui il est préfet de la ville qui est le fief de l'État islamique.
Tout cela a donc bien évidemment des résonances dans le monde entier, tous les pays se sentent concernés à des degrés divers par ces attentats à Paris qui ont fait, je vous le rappelle, 128 morts et 300 blessés, un bilan qui est loin d'être définitif. Voici ce que la chef de la diplomatie européenne a dit tout à l'heure, Federica Mogherini.
Paris again yesterday, Lebanon.
Paris hier, le Liban le jour d'avant, la Russie et l'Égypte il y a quelques semaines, la Turquie encore avant. Il est vraiment clair que nous sommes tous ensemble là-dedans. Européens, Arabes, Est, Ouest, la communauté internationale. On est tous affectés par les terroristes et tous ceux qui essaient de nous diviser et de semer la panique. Et la meilleure réponse à apporter aujourd'hui, c'est de nous réunir, de ne pas nous diviser, de surpasser les différences et d'essayer tous ensemble de trouver un chemin vers la paix en Syrie.
Voilà ce que dit l'Europe par la voix de la chef de sa diplomatie, Federica Mogherini. Ce que disent maintenant les États-Unis, on sait que hier soir Barack Obama a été le premier à prendre la parole et à commenter ce qui se passait à Paris, qui était en train de se passer d'ailleurs. Jean-Louis Pourtet, vous êtes à Washington pour Radio France Internationale. Barack Obama qui a réuni un conseil de défense tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, il est encore trop tôt pour vous donner des détails sur la teneur de cette réunion, mais le simple fait que le président les réunit peu avant de s'envoler pour le G20 en Turquie souligne l'importance qu'il accorde à ce qui vient de se passer à Paris. L'objet de la réunion était de faire le point sur les dernières informations relatives aux attentats, un événement qui va certainement dominer les discussions à Antalya, même si le président Hollande n'y participera pas. Obama, au passage, avait appelé finalement François Hollande hier soir pour lui adresser les condoléances de son pays. Et à cette occasion, les deux hommes avaient réaffirmé leur volonté de vaincre ensemble le groupe État islamique. Et la Maison-Blanche a aussi annoncé qu'Obama, en dépit de ce qui vient de se passer, se rendra à la conférence climat, la COP21 à Paris à la fin du mois.
Est-ce que les Américains se sentent parisiens ?
Oui, tout à fait. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les Américains sont parisiens. Les témoignages de soutien et de sympathie se poursuivent. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui à Los Angeles, San Francisco et ici à Washington à 17h à Lafayette Square, en face de la Maison Blanche. Demain, ce sera Houston, Boston, Chicago qui honoreront les victimes. Le monde du spectacle et du sport se sont associés à cette vague de solidarité. Hier soir, par exemple, Justin Bieber, qui se produisait à Los Angeles, a interrompu son concert et, en larmes, a prononcé une prière pour la France.
En période d'élection, est-ce que la classe politique, autre que Barack Obama, s'exprime sur ces attentats?
Oui, tout à fait. Ne l'oublions pas, nous sommes en pleine campagne pour les primaires. Alors, les Républicains n'ont pu échapper à la tentation de rendre en partie le président Obama responsable des succès du groupe État islamique. Il lui reproche de n'avoir pas été suffisamment ferme, de ne pas avoir combattu les djihadistes suffisamment sérieusement. Nous allons en payer le prix, a déclaré le sénateur McCain. Deux candidats au moins, Ted Cruz et Mike Huckabee, estiment qu'il faut renoncer à tout projet d'accueil des réfugiés aux États-Unis, des réfugiés qui pourraient être infiltrés par le groupe EI. Et puis, du côté des candidats démocrates, pas encore de réaction, mais lors de leur second débat ce soir dans l'Iowa, ils ne pourront éviter des questions sur le sujet.
Jean-Louis Pourtet à Washington pour RFI. Ce nouveau bilan, le bilan s'est aggravé. Il est maintenant de 129 victimes et de 352 blessés, sachant que des dizaines de personnes sont toujours entre la vie et la mort. Nous étions à Washington, nous allons maintenant nous rendre à Moscou. Vous savez que la Russie est partie prenante dans ce conflit syrien, soutenant Bachar al-Assad. Je vous propose de rejoindre sur place Étienne Bouche.
Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Ce qui est arrivé est épouvantable.
Comme de nombreux moscovites, Irina est venue poser un œillet rouge devant l'ambassade de France à Moscou. La tragédie qui a bouleversé Paris et la France a également suscité de l'émotion ici en Russie. Alexandre affiche un regard hébété.
Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé les infos. Je suis bouleversé par ce qu'il s'est passé. Les événements se sont enchaînés de telle manière qu'il était impossible de penser à autre chose.
Depuis tôt ce matin, des centaines de moscovites se sont succédés devant l'ambassade de France, déposant des fleurs et des bougies.
Depuis Charlie, nous nous inquiétons beaucoup pour la France et on se sent un lien particulier avec elle. Nous ne pouvons rien faire pour aider, mais nous sommes là aujourd'hui avec vous.
Nous considérons que c'est notre problème à tous. Cela ne concerne pas seulement les Parisiens et la France. C'est le problème du monde entier. Il faut se serrer les coudes, car cela peut arriver à n'importe où. Personne n'est protégé.
L'ambassadeur de France en Russie s'est exprimé en fin de matinée après s'être recueilli devant les messages de solidarité. Étienne Bouche, Moscou, RFI.
À Paris, en ce moment même, le procureur s'exprime, François Molins. Il annonce que 7 terroristes ont été tués et il donne donc ce nouveau bilan. 129 morts, 352 blessés. 99 d'entre eux sont dans un état d'urgence absolue. Autrement dit, ils sont entre la vie et la mort. Très rapidement donc, hier soir, François Hollande est intervenu une fois depuis l'Élysée, une deuxième fois devant le Bataclan. Et bien évidemment, derrière lui, la classe politique fait front. Encore que, je propose tout d'abord d'écouter François Hollande tout à l'heure lors de sa troisième prise de parole après les attentats.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. C'est un acte d'une barbarie absolue. La France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste.
Florent Guignard, chef du service politique de RFI, François Hollande, Martial et Rassembleur.
Oui, François Hollande, de nouveau chef de guerre, chef d'un État en guerre, hein, puisqu'il le disait dès hier soir, ces attaques, c'est un acte de guerre. Trois allocutions depuis vendredi soir, vous l'avez dit. Il y a eu aussi, en moins de 24 heures, deux conseils des ministres et deux conseils de défense. Actuellement, il est à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où sont soignés la plupart des blessés, des victimes les plus graves des attaques d'hier soir. Vous l'avez entendu, un discours martial, mais aussi un discours d'unité. Le chef de l'État, le président de la République est dans son rôle lorsqu'il appelle les Français et la classe politique au rassemblement, à l'unité nationale. Cette indispensable unité nationale, dit-il. On se souvient qu'après les attentats de Charlie au mois de janvier, il avait essayé de faire vivre ce qu'il avait appelé l'esprit du 11 janvier après la manifestation qui avait eu lieu le dimanche où 3-4 millions de personnes étaient rassemblées à Paris. Il y avait aussi beaucoup de rassemblements en France. L'esprit du 11 janvier, on l'avait vu, n'avait duré que quelques jours et là, l'unité nationale, elle est encore plus fragile.
Alors, on va voir ça. On va écouter le chef de l'opposition, Nicolas Sarkozy, le président du parti Les Républicains.
Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Rien ne peut être comme avant. Le terrorisme a fait trop de victimes. Nous devons comprendre les raisons qui expliquent que de telles attaques soient possibles et en tirer immédiatement les conséquences. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. Au-delà du nécessaire état d'urgence et des contrôles aux frontières, nous soutiendrons toutes les décisions qui iront dans le sens d'un renforcement drastique des mesures de sécurité qui permettront de protéger la vie de nos compatriotes.
Florent Guignard, Nicolas Sarkozy est derrière le chef de l'État, mais il lui met la pression.
Oui, il fait entendre sa petite différence. Hein. Vous l'avez entendu, il réclame des inflexions majeures, un renforcement drastique des mesures de sécurité, alors que au même moment où François Hollande s'exprimait à la mi-journée, le président de la République expliquait que le maximum était fait pour assurer la protection des Français. Et puis Nicolas Sarkozy, dans son intervention au siège des Républicains ce matin, disait « Nous devons comprendre les raisons qui expliquent que de telles attaques ont été possibles ». Il pointe là directement la responsabilité du gouvernement. Alors, à l'Élysée, on se souvient déjà de l'après-Charlie, hein, au-delà de l'unité nationale que la droite et Nicolas Sarkozy avaient respecté. Il y avait aussi cette petite musique différente. Et bien là, la musique aujourd'hui, elle est un peu plus forte, précisément parce qu'il y a déjà eu les attentats de janvier, parce que le bilan est encore plus grave. Alors, du côté de l'Élysée, on tient ce soir à minimiser les propos de Nicolas Sarkozy en disant « c'est pas pareil quand on est dans l'opposition et quand on est au gouvernement, aux responsabilités ». On n'a pas envie clairement de polémiquer sur cette atteinte à l'unité nationale. À l'Élysée, on veut se consacrer à la seule question qui vaille assurer la sécurité des Français. C'est, nous dit-on, la seule préoccupation de François Hollande.
Alors, quelle union nationale si maintenant on s'intéresse au Front National? Écoutons Marine Le Pen, sa présidente.
La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. Et des mesures d'urgence s'imposent. La France doit enfin déterminer quels sont ses alliés et quels sont ses ennemis. Ses ennemis, ce sont ces pays qui entretiennent des relations bienveillantes avec l'islamisme radical. Ce sont aussi ces pays qui ont une attitude ambiguë avec les entreprises terroristes. Tous ceux qui les combattent sont des alliés de la France et doivent être traités comme tels. Le président de la République a annoncé l'état d'urgence et le contrôle temporaire aux frontières. C'est bien. Mais quoi qu'en dise l'Union européenne, il est indispensable que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales définitivement. Sans frontières, il n'y a ni protection, ni sécurité possible.
Votre commentaire, Florent Guignard, sur ce que vient de dire la présidente du Front National.
Eh bien, on voit bien que le Front National surfe sur ces attaques, surfe sur les peurs, on va dire, puisque elle l'assure, les Français ne sont pas en sécurité. C'est une attaque en règle contre la politique du gouvernement, avec une attaque en règle aussi contre la politique diplomatique de François Hollande. On a parfois à l'entendre, Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle était la porte-parole de Bachar el-Assad, puisque c'est précisément au président syrien qu'elle fait référence, hein, quand elle parle d'alliés pour combattre le terrorisme. On connaît le tropisme pro-Bachar de l'extrême droite française. Et d'ailleurs, cet après-midi, Bachar el-Assad recevait une délégation de parlementaires français, dont le député Les Républicains Thierry Mariani, et finalement, il ne dit pas autre chose que ce qu'a dit Marine Le Pen, hein, les politiques erronées adoptées par les pays occidentaux, notamment la France, ont contribué à l'expansion du terrorisme. Voilà, le Front National est clairement hors de l'unité nationale, mais ça, c'est pas nouveau.
Oui, alors, on voit bien, même plus largement, hein, vous parliez de Nicolas Sarkozy, qu'il fallait écouter avec beaucoup d'attention, que l'Union Nationale, finalement, a déjà du plomb dans l'aile. On se souvient que lors des attentats de Charlie, elle n'avait pas tenu bien longtemps. Là, cette fois-ci, c'est encore plus rapide.
Oui, ça avait duré, allez, on va dire 3 jours après Charlie Hebdo. Là, c'était dès hier soir. Hein, on a vu notamment sur Twitter le député Front National Gilbert Collard qui réclamait la démission de Hollande. Il le qualifiait de traître à la nation. On a vu aussi d'autres personnalités de Les Républicains pareillement mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Les centristes à l'UDI, par exemple, nous disent bien sûr qu'il faut de la solidarité, mais on commence déjà à poser des questions et à demander à François Hollande qu'il fasse réellement la guerre et pas avec des moyens secondaires. Ça, c'était une déclaration de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Au-delà de ces quelques petites divergences, quand même, l'unité nationale, elle est relayée par l'immense majorité de la classe politique. Il faut quand même le souligner, hein, de Jean-Luc Mélenchon à François Fillon. On est uniquement aujourd'hui sur l'unité nationale. Les questions, évidemment, viendront après. Et puis, il faut bien le dire, on est encore en campagne électorale. Il y a les régionales les 6 et 13 décembre prochain. Alors, dès hier soir, tous les candidats ont suspendu leur campagne. Mais la campagne, elle va très vite reprendre.
Oui, dans 3 jours. Une semaine, les uns et les autres feront campagne sur le terrain.
Effectivement, parce qu'il y a eu aujourd'hui quelques rumeurs sur un report de ces élections. Eh bien, cette hypothèse, c'est ce qu'on nous dit ce soir à l'Élysée, cette hypothèse n'a jamais été sur la table.
Donc,
les élections régionales auront bien lieu les 6 et 13 décembre
prochains. Et la campagne électorale reprendra forcément ses droits après le deuil de 3 jours décrété par François Hollande ce matin.
Édition spéciale. Philippe Le Caplain.
Vous écoutez Radio France Internationale, il va être 19h30 dans très peu de temps, ici à Paris. Nous allons nous rendre longuement en Afrique dans quelques instants, mais avant cela, un nouveau point, les dernières informations qui viennent de nous parvenir, Gaëtan Goron.
Et elle a eu un nouveau bilan dévoilé il y a les un quart d'heure par le procureur de la République, dont le procureur de Paris, François Molins, on l'écoute.
À l'heure où je vous parle, nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes. Bilan malheureusement provisoire et évolutif, donc, compte tenu du nombre de blessés qui se trouvent toujours dans des états d'urgence absolue. Outre ces décès, le bilan des personnes blessées s'établit à l'instant comme suit. 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. 7 terroristes.
La Tunisie et chaque pays doit se sentir concerné. Personne n'est à l'abri. Il doit y avoir une réponse politique et coordonnée, a martelé Béjiké et Desepsi dans la cour de l'Elysée. Dans la nuit déjà, un communiqué de la présidence tunisienne condamnait fermement l'acte terroriste odieux. Condamnation également des Narda. Le parti islamiste dénonce les crimes terroristes qui ont ciblé des civils innocents et présente ses condoléances à toutes les familles des victimes et au peuple français ami. Après Paris, après le Bardo, après Sousse, l'horreur a de nouveau frappé à Paris. Nos peuples sauront vaincre la barbarie, assure de son côté Saïd Haïdi, le ministre de la Santé. Ici, la voix est unanime. Paris et Tunis vont intensifier leur coopération pour lutter contre le terrorisme. Et Jeanne Bergaoui, Tunis, RFI.
Et parmi les victimes de ces attentats, deux jeunes tunisiennes, des sœurs qui vivaient dans la région du Creusot, dans le centre-est. Elles fêtaient à Paris l'anniversaire d'une amie. C'est ce que rapporte le ministère tunisien des Affaires étrangères. Et puis à Alger, le président Abdelaziz Bouteflika a qualifié, lui, les attentats de véritables crimes contre l'humanité et appelé à une solidarité internationale contre le fléau transfrontalier du terrorisme. En Égypte, le grand imam de la mosquée Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite, a condamné les attaques de Paris, les qualifiant d'odieuses et a appelé le monde entier à s'unir pour faire face à ce monstre. Fin de citation.
Le président kényan Uhuru Kenyatta s'est également exprimé.
Oui, le peuple et le gouvernement du Kenya se tiennent aux côtés de la France au moment où notre humanité commune a été attaquée. Déclaration donc du président kényan Uhuru Kenyatta. Le Kenya, un pays à plusieurs reprises visé par des attaques meurtrières des islamistes Shebab. Réaction également de l'Ouganda qui avait aussi payé un lourd tribut au terrorisme il y a 5 ans lors d'une attaque qui avait coûté la vie à 74 personnes. Okello Oryem est le vice-ministre ougandais des Affaires étrangères. Il a été joint par Daniel Finan.
Les attaques incroyables et lâches de ces terroristes contre des civils innocents qui vaquaient à leurs occupations à Paris, nous les condamnons, tout comme tout acte de terrorisme, quel qu'il soit, particulièrement contre des innocents. Nous appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts contre ces gens qui sont impliqués dans le terrorisme qui frappe les innocents, et ce afin d'éradiquer totalement ce genre de comportement partout dans le monde. Nos condoléances et notre compassion vont aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple français. Nous avons vécu cela autrefois et nous savons exactement ce qu'ils traversent en ce moment. Nous leur souhaitons le meilleur et nous nous tenons à leur côté en ces temps difficiles. Notre compassion et nos sentiments les accompagnent parce que nous avons traversé une période similaire lors de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud.
Ce sont tous les peuples libres du monde qui sont visés. Déclaration du président gabonais Ali Bongo qui dénonce des attaques terroristes abjectes. Et à suivre, les propos d'Anissé Guillaume Massogo, porte-parole de la présidence centrafricaine, qui réagit au nom de Catherine Samba-Panza, la présidente de transition centrafricaine.
Ces actes, selon la présidence de la République, sont des actes barbares et ignobles qui endeuillent des familles françaises et démontrent que le terrorisme frappe partout et sans pitié. Et devant ces actes inhumains et injustifiés, les autorités centrafricaines de la transition, le peuple centrafricain tout entier, qui bénéficie de l'appui de la France pour la sécurité de leur pays, ne peuvent rester indifférents. C'est pour cela que la présidence de la République condamne fermement ces actes terroristes qui n'épargnent plus aucun pays au monde. Et au nom du peuple centrafricain tout entier et en son nom propre, le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, témoigne sa profonde compassion et sa solidarité au président de la République française, François Hollande, et au peuple français tout entier. Et aussi aux familles des victimes, ses sincères condoléances, ainsi que celles du peuple centrafricain.
Et puis à Kinshasa également, beaucoup de Congolais sont indignés par ces attentats. Et certains notent que les victimes ne sont pas seulement françaises. Voici ces réactions recueillies par Sonia Rollet.
Personnellement, c'est déplorable, c'est vraiment regrettable, ce sont des actes inhumains, ce que je pourrais dire. Je ne soutiens personnellement pas le terrorisme en tout cas, mais bon, ce sont des réalités, on n'y peut rien, c'est comme ça.
Aujourd'hui, c'est Paris et des mondes, c'est pas, on peut aussi dire, ça peut aussi se passer à Kinshasa, tout comme à Bruxelles. Et nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de la France.
C'est pas uniquement des Français qui ont été touchés, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes, d'autres nationalités et d'autres pays qui ont aussi perdu des gens. Donc je pense pas que c'est uniquement un attentat contre la France, mais contre le monde entier. Tout le monde devrait avoir peur et combattre ce qui se passe là. Ça pourrait arriver à tout le monde. Tout le monde aurait pu perdre quelqu'un ce jour-là. Et si moi j'avais perdu quelqu'un de ma famille, ça m'aurait consolé, on va dire, que les gens me soutiennent dans ma douleur.
Je suivis ça à la télé, c'était très horrible. Nous apprécions beaucoup la France parce que la France est un pays très social.
Nous avons plusieurs frères là-bas, il y a des généalogies qui se sont érigées là-bas en France. C'est vraiment un pays qui n'est pas du tout raciste. C'est un pays qui reçoit beaucoup de gens là-bas. Donc, en tout cas pour moi, vraiment, je pense que c'est très horrible, c'est attristant même.
Voilà Philippe, c'est sur ces réactions insuscitées recueillies à Kinshasa par Sonia Rollet que s'achève ce point sur l'onde de choc de cette tragédie en Afrique.
Zéphirin Kouadio que l'on retrouve dans trois quarts d'heure maintenant à 20h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Soir, largement consacrée bien évidemment à l'émoi de l'Afrique concernant ces attentats de Paris. Il est 18h45 en temps universel.
Édition spéciale. Philippe Le Caplain.
La conférence de presse donnée par le procureur de Paris est maintenant terminée depuis quelques secondes. Vous êtes notre envoyé spécial au Palais de Justice, Pierre-Olivier. Alors parmi les informations qu'a donné le procureur, tout d'abord ce nouveau bilan.
Oui, effectivement, 129 victimes, alors qu'il était de 128 il y a encore quelques heures. Il est passé maintenant à 129, 352 blessés, dont 99 en urgence absolue. Ils sont pris en charge dans plusieurs centres de soins à Paris. Et puis, 7 terroristes morts hier soir.
Alors justement, et 89 victimes rien que pour l'attentat commis au Bataclan. Donc les terroristes, vous l'avez dit, le procureur s'est exprimé. Et donc, il dit qu'ils sont 7, alors que l'organisation de l'État islamique parlait de 8 dans son communiqué à la mi-journée, et il donne plus de détails dans la manière dont ils étaient organisés, structurés.
Oui, effectivement. Alors déjà, il s'agirait de 3 équipes coordonnées qui sont à l'origine des attentats d'hier soir, qui auraient agi avec des véhicules, des voitures, 3 voitures qui auraient été louées. Il y a aussi ces quelques brefs échanges avec la police pendant l'assaut au théâtre du Bataclan. Les terroristes ont évoqué l'Irak et la Syrie durant de brefs échanges avec les forces de l'ordre. Et puis un passeport syrien a également été retrouvé près de l'un des terroristes. Et il s'agirait bien de l'identité du tueur, c'est ce qu'a confirmé le procureur, ce serait bien le passeport du terroriste, donc ce passeport syrien. Et puis concernant les voitures, alors c'était encore un peu flou, l'enquête ne fait que commencer, c'est ce qu'a rappelé à plusieurs reprises le procureur, mais l'un des véhicules utilisés par les terroristes pour se déplacer d'un lieu à l'autre où ils ont commis les attentats, l'un de ces véhicules a été loué en Belgique, il est immatriculé en Belgique, il a été loué hier, vendredi, par un Français. Et c'est un contrôle à la frontière tôt ce matin, ce samedi matin, qui a permis d'appréhender l'homme qui a loué cette voiture.
Et à propos de cette location qui est donc intervenue hier, sachez qu'une instruction vient d'être ouverte en Belgique pour attentat terroriste. C'est ce que vient de déclarer le parquet fédéral de Belgique. Voilà donc sur les toutes dernières informations données par le procureur de la République. David Thompson, moi je fais un calcul très simple. On nous dit 7 terroristes tués, d'accord ? Il y en a 3 qui se sont fait exploser au Stade de France. Il y en a 4 qui ont perdu la vie au Bataclan, 3 se sont suicidés, 1 a été abattu par la police. Ça nous en fait 7, or on parle de 3 équipes.
Et le compte n'est pas bon, effectivement. Deux hypothèses, soit un terroriste court toujours dans la nature, soit, et c'est également possible, on a une erreur dans le communiqué de l'État islamique. Il faut noter qu'il y a, peut-être aussi une autre erreur dans ce communiqué. Il parle d'une attaque dans le 18e arrondissement qui n'a pas eu lieu. Alors, soit c'est une erreur, soit c'est une attaque qui a été prévue et finalement ratée. Donc, effectivement, c'est une question. Pour l'instant, on n'est pas en mesure d'y répondre.
Je vous propose de nous rendre à présent à Vienne, en Autriche, où il y avait une réunion sur la Syrie. Aujourd'hui, réunion concernant et réunissant un certain nombre de puissances, parmi lesquelles les États-Unis et la Russie. Christian Filitz, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette réunion qui a duré environ 6 heures ?
En fait, on ne s'attendait pas à grand-chose avant la réunion, mais ce qui en est sorti, c'est un calendrier assez ambitieux. Ce calendrier, il prévoit tout d'abord une rencontre entre des opposants syriens et le régime de Damas, et cela peut-être déjà avant le 1er janvier. Deuxième pas, d'ici 6 mois, il y aurait la mise en place d'un gouvernement de transition, et ensuite, avec cela, il y aurait peut-être, ou on l'espère, un cessez-le-feu, et ensuite, après 18 mois des élections, donc ce gouvernement de transition préparerait donc des élections et évidemment aussi la rédaction d'une nouvelle constitution.
Donc, il a été question de politique, puisque la solution peut être militaire, mais surtout elle peut être politique. Est-ce que il a été question officiellement, bien évidemment, officiellement des attentats de Paris ? Est-ce qu'ils ont pesé dans les discussions à votre connaissance ?
Alors bien sûr, ces travaux se sont déroulés à huis clos, mais les déclarations des différentes personnalités à l'issue de la réunion, et surtout de John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, eh bien, a souligné que ces attentats ont renforcé la détermination des participants à trouver une solution. Donc il y a peut-être un effet positif de ces attentats terribles. Il y a donc un effet qui a accéléré les travaux et donc poussé les différentes opinions qui se sont réunis autour de la table à trouver une solution commune. D'ailleurs, avant la réunion, plusieurs participants, dont Laurent Fabius, ont souligné, et Mme Mogherini, chargée donc des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, ont souligné le besoin d'unité pour combattre le terrorisme, et ce, sur un plan international.
Voilà, Christian Filitz, en ligne de Vienne, en Autriche, pour Radio France Internationale. Je vous redonne ce bilan, 129 morts, 352 blessés, dont une centaine sont entre la vie et la mort. Et il y a tous ceux qui ont été choqués, bien évidemment. Il y a les morts, les blessés, mais tous ceux qui ont été atteints d'une manière ou d'une autre et qui ont besoin d'une prise en charge. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans les heures qui ont suivi les attaques. Elle a été installée dans la mairie du 11e arrondissement de la capitale. C'est pas très loin de là où ont été commis les attentats, notamment au Bataclan. Nicolas Falaise, vous avez passé la journée dans ce secteur et vous avez pu rencontrer l'un des psychiatres qui a pris en charge des dizaines de personnes sous le choc, bien évidemment.
Oui, tout à fait. Le docteur Christophe Debien est psychiatre, et lui et ses collègues sont venus dans la nuit de Lille, dans le nord de la France. Première tâche pour cette cellule d'urgence médicale, effectuer une maraude, c'est-à-dire circuler dans les quartiers où ont eu lieu les attaques, à la recherche de personnes sous le choc qui pourraient être errées sans but dans les rues en pleine nuit. Après cette première étape, les psychiatres ont été installés dans la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement de la capitale pour y accueillir les personnes choquées se présentant spontanément, volontairement, et pour écouter leur récit, comme l'explique le docteur Christophe Desbiens.
Il nous raconte par le détail ce qui se passe, oui. Ouais. Ce qui s'est passé, en tous les cas, et des horreurs. Des scènes de guerre, je suppose. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en faire, mais j'ai vu un monsieur qui est un ancien militaire et qui me disait que c'était tout à fait comparable avec ce qu'il avait vécu 20 ans, 30 ans auparavant. La première vague, ça a dû commencer vers 7-8 heures du matin à peu près, des gens du Bataclan, des gens aussi d'autres endroits, et puis on commence à avoir des témoins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été victimes, mais qu'on appelle nous les impliqués directs, c'est-à-dire qui ont assisté aux scènes et qui ont, hélas, assisté au réel de la mort, enfin qui ont été confrontés à ce réel-là.
Le docteur Christophe Debien. Nicolas Falaise, qu'est-ce que les psychiatres peuvent apporter aux personnes choquées par les attaques d'hier soir ?
Eh bien, selon les termes du psychiatre, il s'agit d'écouter ces victimes, d'écouter leurs émotions et de repérer ce que les médecins appellent les personnes en état de stress dépassé. Le travail consiste alors à aider les victimes à recoller à la réalité, mais pour certains, cela nécessitera une prise en charge médicale ailleurs que dans cette cellule de soutien psychologique d'urgence.
Et bien évidemment, le travail commence pour tous ces gens pour des semaines, des mois, voire des années. À la suite de ces attentats, donc, un certain nombre de mesures ont été prises, l'état d'urgence, l'interdiction de rassemblement, ce qui fait que bon nombre de lieux dans Paris sont déserts, en tout cas ne ressemblent pas à un samedi après-midi où il y a de l'affluence. On a vu dans cette édition spéciale ce qui se passait dans les grands magasins du côté de l'Opéra. C'est également vrai, cette désaffection, cette crainte du côté de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel et les musées qui sont fermés, Alice Posicky.
Au pied de la Tour Eiffel règne un calme inhabituel. Pas de bousculade ni d'attente interminable. Le monument est fermé. Une centaine de touristes déambulent. Le malaise est perceptible.
Ça fait peur. On a pris le métro pour venir. Ce matin, il y avait presque une personne dans le métro. On a même consolé une jeune fille qui était en pleurs tellement elle avait peur.
Il y a de la tension aujourd'hui. Il n'y a personne. Ça n'est pas normal. Nous sommes dans le centre de Paris. Il n'y a vraiment personne.
Faut pas que la vie s'arrête non plus à ça. Après, je pense que c'est ce qu'ils attendent, qu'on ait peur. Faut pas avoir forcément de peur de sortir, sinon on vit plus, quoi.
Bonjour. Je venais pour une visite groupée qui devait commencer à 9h50.
Alors, est-ce que ça a été maintenu ou non ?
À quelques centaines de mètres, cet homme souhaite visiter le musée du Quai Branly. Il est suivi d'un couple de Londoniens bien décidés à mettre le nez dehors.
Si on reste enfermé, c'est comme si on faisait exactement ce que les terroristes voulaient faire de nous. Donc on s'est dit qu'on ferait comme d'habitude. On fait confiance au gouvernement français, il nous protège. Alors on ne changera pas nos plans.
Les visiteurs ont vite rebroussé chemin. Le musée du Quai Branly a finalement décidé de fermer ses portes au public.
Le reportage d'Alice Posicki, Loïc Bussière. Je reviens vers vous pour la posture des hommes et des femmes politiques. C'est toute la question de l'Union nationale.
Oui, avec de nombreuses déclarations qui appellent justement à cette fameuse unité nationale. Philippe, unité qui prend forme de 3 jours de deuil dans le pays. Tout d'abord, décrété ce matin par François Hollande, unité qui se manifeste également par la suspension de la campagne de la plupart des candidats au régional des 6 et 13 décembre prochains. Pour l'instant, tout au moins, unité malgré tout fragile. À l'écoute du discours de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui le président du Parti Les Républicains, qui a certes apporté son soutien à l'état d'urgence et au contrôle aux frontières décrétées par l'Élysée, mais qui a aussi exigé plus de fermeté. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre, dit-il. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité, le mot est lancé, pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. Fin de citation. Toujours dans le camp Les Républicains, le député de Haute-Loire, Laurent Wauquiez, demande lui que les 4000 personnes vivant sur les territoires français et fichées pour terrorisme soient placées dans les centres d'internement antiterroristes spécifiquement dédiés. Tandis qu'Éric Ciotti estime, lui, je cite, que l'on raisonne avec le même logiciel et dans le même cadre juridique qu'avant, alors que l'on est dans un monde nouveau. Il faut, pour le député des Alpes-Maritimes, mettre en place des procédures exceptionnelles dans la période d'extrême dangerosité actuelle. Enfin, unité nationale fragile et même franchement fissurée quand on porte son regard un peu plus à droite encore. Ainsi, Marine Le Pen, bien qu'elle souhaite que la nation reste unie dans cette épreuve, creuse davantage encore la thématique sécuritaire. La France et les Français ne sont plus en sécurité, dit-elle. La présidente du Front National qui demande un réarmement d'un pays qui, selon elle, subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de défense, Philippe.
Et puis, une manière de rendre hommage à toutes les victimes, c'est par exemple ce que vient de faire l'orchestre du Metropolitan Opera, dirigé par Placido Domingo. Il a joué tout à l'heure la Marseillaise de manière impromptue avant la représentation de l'opéra de Puccini, la Tosca. Cela pour rendre donc hommage aux victimes des attentats perpétrés à Paris. Cela se passe bien évidemment à New York. New York qui déjà hier soir avait témoigné son soutien à la France en éclairant de bleu, de blanc et de rouge le célèbre gratte-ciel, l'Empire State Building. Revenons à l'enquête. Minute après minute, on a de nouvelles informations, notamment celle-ci, David Thompson, à savoir que l'un des terroristes qui a trouvé la mort donc au Bataclan faisait l'objet d'une fiche S, c'est-à-dire qu'il était surveillé pour djihadisme.
C'est-à-dire en tout cas qu'il était fiché, donc pas forcément surveillé, l'un ne va pas forcément de pair avec l'autre. En fait, à chaque fois qu'il y a un attentat, on se rend compte que la personne était connue des services de renseignement, mais parce que toutes les personnes qui sont susceptibles de passer à l'acte de façon violente, en général, sont connues. Mais les fiches S pour djihadisme, c'est à peu près 3000 personnes en France. Fiche S, c'est 5000 personnes en tout. Ces personnes ne sont pas toutes, loin de là, surveillées 24 heures sur 24, avec leur messagerie, leur téléphone écouté, loin de là, car ce serait impossible pour les services de renseignement. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui de cette police française qui est littéralement submergée par l'ampleur numérique du nombre de djihadistes qui sont aujourd'hui, on va dire, sans doute 20 fois supérieurs aux chiffres qui étaient ceux de l'Afghanistan, pour prendre un exemple qui fait date. Donc la fiche S, en fait, ne veut pas vraiment dire grand-chose.
Merci pour cet éclairage, David Thompson. Je rappelle que vous avez écrit Les Français djihadistes aux éditions Les Arènes. Merci également à toutes les équipes de Radio France Internationale, à la technique, à la rédaction pour cette édition spéciale. RFI qui, bien sûr, continue de vous accompagner pour vivre et pour comprendre autant que faire se peut l'horreur commise hier soir en plein cœur de Paris.